Et là, disons, cette croissance de la consommation, en termes de consommation, il y a aussi certaines valeurs qu'il faut avoir à l'esprit, qui sont maintenant de mieux en mieux connues. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, au-delà de la disparité des ressources par rapport aux concentrations de population sur la planète, il y a d'énormes disparités de la consommation. Et là, par exemple, l'Australie, qui connaît depuis quelques années un très très grave problème d'aspect halo, l'Australie devient un peu un laboratoire, parce qu'elle avait à la fois des conditions géologiques, une histoire particulière, un modèle agricole. Enfin, l'Australie est entrée dans un véritable phénomène de crise par rapport à l'eau, au point qu'il y a quelques mois, l'ex-premier ministre australien, en ultime recours, les médias en ont parlé, a fait une prière en priant Dieu de donner de l'eau à l'Australie. Bon, ça vient de se refaire aux États-Unis il y a une quinzaine de jours, et là c'était assez miraculeux parce que c'est le gouverneur de Géorgie qui a réitéré la même chose, et le lendemain il y a eu un véritable déluge. Bon, enfin bon, bref, c'est bon, tant mieux pour lui, hein, pour sa prochaine réélection peut-être, mais enfin ça ne suffit pas de toute façon à recharger les nappes phréatiques. Mais c'est vous dire l'état de crise dans lequel on est déjà. Donc en matière de disparité de consommation, bon, c'est vrai, là il y a des chiffres qui sont bien connus. Ben, un habitant de Sydney consomme 1000 litres d'eau par jour, un Américain 600 litres, 700 litres, bon, pour un Européen 120, 150, ça varie, alors que dans certains pays en développement, la consommation n'excède pas par habitant, n'excède pas une vingtaine de litres par jour. Alors, ajoutez à ça aussi, depuis quelques années, on est rentré, on le sait, phénomène climatique extrême, réchauffement climatique, etc., qui a un impact sur tout le cycle hydrologique, et là, il faut avoir à l'esprit qu'au-delà du phénomène de migration dans les grandes mégalopoles, il y a aussi un phénomène croissant de concentration des populations sur les zones littorales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà près de 40% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes. On le voit en France avec le phénomène de tous les retraités qui vont s'installer sur la côte atlantique. Enfin, c'est plus du tout seulement la Méditerranée, hein, c'est une forme de phénomène de société. Alors là, je sais qu'il y a des tas de polémiques sur le réchauffement climatique, ses conséquences, etc. Enfin, ça commence un peu, on commence à savoir que ce n'est pas tout à fait faux. Donc, si d'aventure, effectivement, on est exposé dans les années, dans les décennies qui viennent, à des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes, dans l'hypothèse d'une hausse assez sensible du niveau de la mer, ça aura de surcroît un impact sur ces concentrations extrêmement importantes de populations qui vivent près des côtes. Parce que là, c'est un truc, ça monte de 1 mètre, ça monte de 2 mètres, etc. Donc, ça peut avoir un impact aussi extrêmement important. Alors, parmi les problèmes majeurs aussi à résoudre, et là ça vaut à la fois pour les pays développés, je le cite parce qu'on généralement on n'en prend pas la mesure, ça vaut à la fois pour les pays développés comme le nôtre, qui ont donc des infrastructures tout à fait modernes, dont j'évoquais tout à l'heure l'importance et le coût. Ça vaut a fortiori pour les pays du Sud, qui disposent pour certains d'infrastructures, mais en moins bon état. Il y a aussi un énorme problème, c'est le problème des pertes. Parce que même si on dispose de réseaux, en France aujourd'hui, on considère, avec des moyennes, c'est pas, il faut apprécier la situation locale, mais même avec notre réseau, nos technologies modernes, etc., on accuse un taux de fuite de 30%. C'est-à-dire 30% de l'eau qui est produite, qui est potabilisée. Ça coûte de plus en plus cher parce qu'il y a de plus en plus de pollution, j'y reviendrai tout à l'heure. 30% de cette eau fuit, donc est produite en pure perte. Donc ça c'est pour la France. Et dans les pays du Sud qui disposent d'infrastructures, disons, beaucoup moins perfectionnées, pas d'infrastructures du tout, une partie d'infrastructures héritées des périodes coloniales, etc., etc., ça atteint parfois 50 à 60% de taux de fuite. Donc parmi les priorités, disons, en termes d'amélioration de l'accès à l'eau, il y a déjà, disons, l'amélioration des réseaux, etc., etc. Et donc, ça veut dire que si on arrive à 45%, 50, 55% de taux de fuite, il y a seulement, c'est facile à faire, hein, que la moitié de l'eau prélevée qui est réellement consommée. Et le reste, alors, c'est par drainage, par fuite, par évaporation, etc., etc. Alors là, ça nous amène à presque par glissement naturel, si j'ose dire, par un autre des éléments majeurs aussi pour là à l'échelle mondiale. C'est là, on va entrer dans la question des différents usages de l'eau. C'est pour ça que je vous évoquais tout à l'heure l'approche un peu naturaliste. Ça va bien au-delà de l'eau dont on a besoin pour nos besoins quotidiens, pour notre santé, pour rester en vie, etc. Aujourd'hui, 70% de l'eau mobilisée est utilisée dans l'agriculture. On a besoin d'eau pour faire pousser toutes les, disons, toutes les cultures qui nous sont absolument indispensables pour notre alimentation. Et là, c'est vrai qu'il y a un autre problème majeur qui affecte les pays du Sud. on sait que les cultures par irrigation se développent de plus en plus, que c'est un peu l'avenir. Bon, nous, on est déjà dans des problématiques extrêmement sophistiquées, du goutte à goutte, sous serre, monitoré par ordinateur, etc., etc. Malheureusement, dans les pays pauvres, dans les pays du Sud, on en est encore à des technologies d'irrigation très anciennes, je ne vais pas dire archaïques, ce qui serait un peu dévalorisant, mais enfin très anciennes, et qui entraînent des taux de perte absolument considérables. C'est-à-dire que la... je ne dirais pas la totalité, mais une partie extrêmement importante de l'eau qui est mobilisée pour l'irrigation dans les pays pauvres s'évapore, est perdue, etc. Et c'est un des vecteurs, un des éléments sur lequel il faudra accomplir des progrès considérables pour diminuer ces taux de perte absolument démentiels dans l'eau utilisée par, disons, par l'agriculture des pays pauvres. Et comme dans les perspectives de croissance démographique que j'évoquais tout à l'heure, il est clair qu'il va falloir augmenter la production agricole. En augmentant la production agricole, on va augmenter les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation. Donc on voit bien que de toute façon, si on n'intervient pas sur ce fait-là, on ne s'en sortira pas. Donc il va falloir à la fois réduire les gaspillages, promouvoir des techniques d'irrigation moins dépensières en eau, tout en garantissant l'alimentation des populations qui vont continuer à croître. Alors, autre défi qui surgit, je m'excuse, ça ne fait pas un tableau très, disons très souriant, mais c'est malheureusement la réalité. Alors, autre défi qui surgit, bon ça c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, on y est de plus sensibilisé aussi, c'est la question de la pollution des ressources en eau, de leur dégradation croissante. Alors, on a un peu vu le problème donc quantitatif, accès à la ressource, etc. Mais le problème de l'accès à l'eau, enfin le problème de l'eau, est de plus en plus également qualitatif sous l'angle des pollutions que génèrent les activités industrielles, les activités humaines, les activités agricoles en général. Et là, pour simplifier, résumer, même si je reconnais c'est un peu simpliste, c'est la rançon de notre développement, de la révolution industrielle, enfin de tous les progrès scientifiques et techniques qu'on a pu faire et qui génèrent des pollutions qui affectent les ressources en eau. Et là, on est lancé aussi dans une véritable, à la fois une fuite en avant et à la fois une course-poursuite. Et ça pose, là, pour le problème de la qualité des ressources en eau, ça pose clairement la question du modèle de société, du modèle de développement dont nous avons, que nous avons adopté et du prix à payer pour le maintenir, pour en assurer la pérennité. Parce que en matière de... Donc, plus la consommation de l'eau augmente, plus les rejets d'eau usée vont augmenter également. Donc, il y a des effluents pollués qui sont rejetés de manière de plus en plus importante. Et dans les pays en développement, pauvres, enfin bon, il y a un certain nombre d'appellations qui ont évolué au fil du temps, malheureusement aujourd'hui, il y a près de 90% des eaux résiduaires qui sont produites, notamment dans les agglomérations, qui sont rejetées dans le milieu naturel sans être traitées du tout. 70% des déchets industriels qui sont rejetés également. Donc là, c'est vrai que la situation est absolument sans commune mesure avec celle que nous connaissons, parce que nous avons à la fois des systèmes pour l'eau potable, des systèmes pour l'assainissement, on a construit des stations d'épuration. Bon, c'est pas forcément, il n'y a pas de miracle à attendre, on peut pas évacuer toute la pollution, mais là on parle de pays qui ne disposent d'aucune infrastructure de ce type. Donc quand vous avez des activités industrielles extrêmement polluantes, celles que nous avons nous aussi connues dans des phases intérieures de notre histoire, qui ne dispose d'aucun système de traitement des déchets, de d'épuration, d'assainissement des eaux, tout ça est purement et simplement rejeté dans le milieu naturel. Prenons le cas du Gange, par exemple. Aujourd'hui, il faut savoir que les 10 plus grands fleuves mondiaux sont très, très gravement menacés, à la fois en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Le Gange, fleuve sacré des Indiens, des gens qui s'y baignent et qui est pollué, mais au-delà de tout entendement. Aujourd'hui, l'Inde, la Chine notamment, qui connaissent le développement économique qui fait beaucoup l'actualité, sont confrontés à des problèmes de pollution, à des problèmes environnementaux, mais absolument gravissimes, qui vont leur poser des problèmes considérables à l'horizon de quelques dizaines d'années. Ça ne sera pas dans un siècle. Il y a déjà des tas d'éléments, d'événements de ce type en Chine, des pollutions, des gens qui sont empoisonnés, on doit arrêter des usines, des pollutions même transfrontières, etc. etc. Et là, ça pose clairement la question de notre modèle de développement, développement de notre modèle de société. Et malheureusement, si on prend en compte ce que nous avons connu dans nos pays développés, on peut malheureusement redouter qu'on soit dans une forme de fuite en avant permanente et qu'on soit clairement dans le curatif au lieu d'être le préventif, c'est-à-dire de ne pas se poser la question tel modèle de développement, tel modèle agricole, telle activité industrielle va générer tel et tel type de pollution, ça va avoir tel et tel impact. Est-ce qu'on le remet en question ou est-ce qu'on fait confiance à la technologie de manière un peu aveugle, on va développer des super technologies? Malheureusement, la situation aujourd'hui, c'est un peu ça. On est dans une logique de fuite en avant. Ah, il y aura toujours la réponse technique. Alors là, c'est la réponse de l'ingénieur. C'est un grand classique. Et par rapport à ça, ce qu'il faut clairement avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, toutes les ressources en eau, qu'il s'agisse des fleuves, des rivières, des lacs, des nappes souterraines, sont de plus en plus polluées. Donc ça, on y est familiarisé depuis quelques années. Alors, ça va des produits chimiques aux métaux lourds, les pesticides, les nitrates, les phosphates, les médicaments, etc. etc. Qui sont de plus en plus massivement présents, donc ça soit dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines, et qui posent... Alors là, je dirais, il y a... Je ne vais pas incriminer, dire c'est les agriculteurs, c'est les... Non, c'est une question de responsabilité collective, parce que c'est la rançon de notre modèle de développement, de l'agriculture, de l'industrie, des transports, de la croissance, de l'aménagement économique, etc., et de leur impact global sur l'environnement. Alors, dans les pays développés, donc on est dans une espèce de fuite en avant curative, hein, de plus en plus chère d'ailleurs, mais on peut quand même se poser la question de savoir si cette fuite en avant dans la dépollution industrielle nous apportera vraiment des réponses. Alors dans l'espace européen, on a des contraintes de plus en plus fortes par rapport à ça, parce qu'on a adopté ce qu'on appelle une directive cadre européenne sur l'eau, et qui impose à la France, comme à tous les États membres, de rétablir un bon état écologique et chimique des eaux à l'horizon 2015. Ça veut dire qu'il va falloir déployer des efforts absolument considérables pour rétablir les rivières en bon état, pour améliorer les arbres. On en est très loin. Hein. C'est bon, en fait, on a une échéance comme ça 2015, mais on sait déjà qu'il y a des reports possibles, ça va être reporté, etc. Et les investissements qui vont devoir être consentis en France et à l'échelle européenne pour tenter d'atteindre sont absolument gigantesques. Ça se compte en centaines de milliards d'euros. On incrimine toujours Bruxelles, mais je pense qu'en matière de gestion des eaux, heureusement qu'on a cette dimension européenne de la gestion des eaux, parce qu'au vu des performances de la France en la matière, hein, voir la Bretagne, voir l'histoire des PCB dans le Rhône récemment, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment des leçons à donner à la terre entière. Mais alors, quand on voit déjà à quel problème on est confronté dans les pays du Nord par rapport à ces problèmes-là, que dire pour les pays du Sud, les pays émergents, etc., qui sont donc embarqués dans une course... une espèce de croissance à marche forcée, comme la Chine, comme l'Inde, etc. quoi. Alors là, d'accord, on multiplie les contrats, on va leur vendre, bon, etc. D'ailleurs, Veolia Suez, plus Veolia que Suez, sont très présentes en Chine, sur des contrats de 50 ans et tout. Bon, moi, c'est un peu annexe, mais je trouve que Veolia se mouille un peu, parce que qu'est-ce que sera la Chine dans 50 ans, moi, je ne sais pas. C'est bon. Bref, alors, cet état des lieux, certes, pas très encourageant, alors dessine aussi ou fait apparaître disons ce que j'appelle les nouvelles frontières de la gestion de l'eau, parce que pour répondre à tout ça, on a des outils, on a des logiques opératoires, et là dans la période, et ça s'accélère ces dernières années, parce qu'il y a aussi une prise de conscience de ce constat de la dégradation de la qualité des ressources, et donc pour faire face à ça, donc il y a des nouvelles problématiques, des nouveaux outils qui se déploient, là, qui se mettent en place. Alors parmi les outils traditionnels, là, on a les barrages, puisque bon, quand on a un problème de mobilisation de la ressource en eau, c'est vrai qu'on songe spontanément aux barrages. Alors, les barrages, c'est assez intéressant parce que c'est aujourd'hui, il y a 45 000 barrages de plus de 15 mètres de haut dans le monde, hein, on sait qu'on les construit à la fois pour mobiliser des ressources en eau, pour faire de l'électricité avec des centrales hydroélectrique, mais c'est une démarche qui est de plus en plus remise en cause. En fait, c'est un phénomène qui a commencé il y a 15-20 ans, donc depuis même l'Antiquité, hein, parce que l'histoire des barrages, ça peut remonter dans l'Antiquité, toute l'histoire de l'hydraulique. Mais c'est vrai qu'il y a une remise en cause depuis maintenant à peu près 20 ans de la réponse barrage, quoi, qui est concomitante de la prise de conscience de la fragilité de la ressource, etc., qu'on ne peut pas simplement répondre comme ça en termes quantitatifs. Ah, on a besoin d'eau, on va construire un barrage. Bon, vous connaissez le barrage des Trois Gorges en Chine, qui a entraîné le déplacement de 2 millions de personnes, les inquiétudes qui se font jour, parce que si le barrage lâche, il commence à y avoir des fissures, etc., ça va être une catastrophe écologique quasiment sans précédent, mais en même temps, on continue quand même à en construire, et là, depuis 2 ou 3 ans, il y a des gens qui se mobilisent en Islande, par exemple, parce qu'il y a une multinationale canadienne qui veut construire une usine de nickel, et il y a un projet de construction d'un immense barrage de 190 mètres de haut qui alimenterait cette usine, et c'est la l'entreprise Alcoa, hein, qui est bien connue par ailleurs pour ses performances dans le domaine du développement durable. Et donc l'impact serait catastrophique, parce qu'on estime que les dommages définitifs pourraient toucher près de 290 000 hectares, soit 3% de la superficie d'Islande, pour un seul barrage, pour une usine. Donc ça montre bien là, les questionnements qu'on peut se poser. Alors, pour répondre aussi, donc on a la réponse barrage, on a, alors là en termes de consommation, je reviens un petit peu à la langue naturaliste que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose aussi de plus en plus, on a la croissance, qu'il n'y avait pas d'obligation à ça, ça n'a pas toujours existé, de la consommation des eaux en bouteille. Alors ça devient un thème de plus en plus conflictuel, hein, je vais juste l'évoquer très rapidement, mais la consommation d'eau en bouteille concurrence désormais de plus en plus réellement la consommation donc publique de l'eau du robinet, pour le parler simplement. Alors c'est vrai dans les pays industrialisés, dans les pays riches, dans nos pays, hein, on est le deuxième consommateur d'eau en bouteille du monde après l'Italie. Il y a d'ailleurs des composantes culturelles dans ce mouvement-là, c'est assez intéressant. Et donc l'eau en bouteille est de plus en plus plébiscitée par des consommateurs qui doutent de la qualité de l'eau du robinet, qui se méfient, ça sent trop l'eau de Javel, etc. Bon. Mais c'est aussi vrai, et c'est beaucoup plus dramatique dans les pays du Sud, et là il y a un autre phénomène qui se passe. On y reviendra tout à l'heure. Le problème d'accès à l'eau dans les pays du Sud, c'est pas d'abord un problème de ressources, c'est pas un problème de technique, c'est un problème de faillite politique. Ce sont les États, ce sont les politiques, le politique, qui ne prennent pas, suffisamment, qui ne veulent pas prendre la véritable dimension du problème, qui ne font pas ce qu'il faut pour le résoudre. Et donc, l'eau en bouteille, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus grave dans les pays du Sud, parce qu'il y a un phénomène, il y a une espèce d'arbitrage qui est fait par les élites de ces pays. On va privilégier la consommation d'eau en bouteille pour nous, élites. Donc on va importer très cher, de très loin, dans les grandes multinationales qui sont spécialisées, de l'eau pour une certaine catégorie de la population, et on laisse tout le reste de la population en déshérence. Et je pense que dans le débat sur l'eau embouteillée, c'est aussi une donnée qu'il faut avoir à l'esprit. Et en 2004, on estime que la consommation mondiale, c'était plus de 150 milliards de litres d'eau embouteillée. Alors là, sur la problématique, donc ce sur quoi on peut s'interroger par rapport à cette croissance de l'eau en bouteille, on a immédiatement en corollaire un accroissement des déchets. On a, disons, pour une expression un peu à la mode, l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, notamment des bouteilles en plastique, c'est une véritable catastrophe, parce que c'est du PVC, ça ne se dégrade pas. Si on le rejette dans l'environnement, elle va mettre 500 ans ou 1000 ans à se dégrader. Pour l'éliminer, on va devoir l'incinérer, incinérateur, dioxine, etc., etc. Donc là, le bilan écologique est absolument indéfendable. Et par ailleurs, sur la qualité, parce que dans l'appétence pour l'eau en bouteille, ce qui est spontanément mis en avant par le consommateur, oui, l'eau du robinet n'est pas bonne, elle est polluée, elle sent l'eau de Javel, etc. Ah, l'eau en bouteille, c'est très bien. C'est une douce illusion, ça aussi. Déjà, il y a différents types d'eau en bouteille. Vous avez les eaux minérales naturelles. On a une situation française un peu spécifique parce qu'il y a un très long historique, et c'est l'Académie de médecine qui est seule compétente à décerner la qualité d'eau minérale naturelle. Alors en principe, c'est une eau qui ne doit subir aucun traitement, qui a des vertus thérapeutiques supposées, donc c'est une première gamme. Après, vous avez les eaux de source, qui sont les eaux de consommation courante, sur lesquelles on peut appliquer quelques traitements, et de plus en plus, et ça sur un modèle importé des États-Unis, les grandes bonbonnes d'eau purifiée que vous voyez dans les établissements collectifs. Alors là, il y a quand même des questions, parce que très rapidement, hein, si on appliquait à toutes les eaux embouteillées les normes qui ont été mises en place pour autoriser la consommation de l'eau potable au robinet, il n'y a aucune eau embouteillée qui serait autorisée. Donc vous voyez, il y a déjà un problème de législation, etc. Bon, puis ce qu'on sait, c'est que ce qui distingue donc les eaux minérales naturelles et certaines eaux de source, c'est qu'il y a un apport en oligo-éléments, sodium, en calcium, etc., etc., un peu plus important, et ça commence désormais à se savoir un peu plus. C'est pas forcément, à recommander pour certains types de populations. Vous pouvez avoir un apport trop fort d'oligo-éléments qui, si vous souffrez de telle affection, si vous êtes fragile, enfin immunodéprimé, femme enceinte, nourrisson, etc., etc., il faut faire un peu attention. Donc c'est en aucun cas la réponse, au problème de l'eau, au problème de la dégradation de la qualité de l'eau. Mais c'est vrai qu'en même temps, on note un très très fort développement donc de la consommation. Alors ça pose aussi des problèmes pardon, en matière de conflits autour des ressources, parce que là, ces dernières années, en Inde, dans l'état du Kerala, Coca-Cola s'est installé, pompe de l'eau pour faire du coca et prive donc les populations de l'eau. Donc ça a pris des proportions invraisemblables, il y a eu des arrêtés d'interdiction, c'est devenu vraiment une affaire d'État en Inde, quoi. Donc ça va bien au-delà de... Là, il y a un vrai conflit pour l'appropriation de la ressource, quoi, qui s'effectue évidemment au détriment des plus pauvres. Ça n'a rien d'absolument extraordinaire. Et la surproduction sur certains sites de production d'eau en bouteille a pour effet de priver les populations environnantes de l'accès à l'eau auquel elles auraient normalement droit. Et alors, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, il faut savoir quand même que près de 40% des eaux embouteillées sont produites à partir des ressources en eau brute, qui servent à produire l'eau du robinet. Donc là, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu tout un débat cristalline, en guerre avec les embouteilleurs, etc., etc. Bon, cristalline a 17 sources en France, dont une source à Nantes, que je connais un petit peu, qui est la source dans laquelle la ville de Nantes s'alimente pour produire l'eau du robinet. Donc il faut vraiment bien regarder les étiquettes, et enfin, etc., bon, pour ce qui est des eaux du robinet. Alors, parmi aussi les nouveaux outils, les nouvelles réponses par rapport à la, disons, problème de manque d'eau ou d'accès à l'eau, il y a quelque chose qui, il y a encore quelques années, semblait participer d'un espèce de délire technologique comme ça, etc., c'est le dessalement de l'eau de mer. Donc, là, on disait, c'est un truc, bon, il y en a un petit peu dans les pays du Golfe, etc. Pas du tout. C'est quelque chose qui se développe avec une rapidité extrême. Donc il y a eu en gros 2 grandes époques. Il y a eu la première période, la première technologie de dessalement où en fait on vaporise l'eau. Donc il faut avoir de l'énergie, énormément d'énergie. Donc c'est pour ça que ça s'est, dans un premier temps, ça s'est développé dans les pays du Golfe. Et première génération, et désormais il y a une deuxième génération, c'est ce qu'on appelle les technologies membranaires. Donc pour le dire simplement, c'est vous avez des petits filtres, des petits tamis extrêmement fins d'un micron dans lequel vous injectez de l'eau à haute pression et ça débarrasse l'eau de ses impuretés. Mais ça nécessite également énormément d'énergie. Alors, ce qui a longtemps été considéré comme quelque chose d'un peu exotique, comme ça, tout à fait, ben, plus du tout. Et dans un grand nombre de pays qui ont un véritable problème donc de conflits, différents usages de l'eau, manque de ressources en eau, etc., ben, on recourt de plus en plus, et c'est un peu la fuite en avant dans les technologies curatives ou l'hypertechnologie, j'évoquais tout à l'heure, on recourt de plus en plus au dessalement. Donc aujourd'hui, dans tous les pays du Golfe, dessalement, ça c'était déjà connu. Ce qui est moins connu, c'est qu'en Espagne, qui est en situation très critique par rapport à l'eau, on pourra l'évoquer tout à l'heure dans le détail si vous voulez, aujourd'hui en Espagne, il y a 900 unités de dessalement d'eau de mer. À l'horizon des 10 prochaines années, dans tout l'arc méditerranéen, donc l'Espagne s'est déjà fait, l'Italie, la Grèce, la Tunisie, l'Algérie vont recourir massivement au dessalement d'eau de mer. Alors ça pose des problèmes parce qu'il faut énormément d'énergie pour produire de l'eau par dessalement. Quand vous produisez 1 litre d'eau par dessalement ou désalinisation, vous rejetez 1 litre de saumure. Donc si vous rejetez le litre de saumure, parce que l'usine de dessalement, par définition, elle est au bord du rivage, près de la mer. Donc si vous rejetez 1 litre de saumure dans la mer, bah, toutes les colonies de Posidonie qui sont là, elles sont très mal barrées. Et pour l'instant, on se contente de tirer un tuyau de 50 mètres et de tout rejeter tranquillement. Et par ailleurs, par définition, vous produisez, donc sur toutes les côtes de l'Espagne aujourd'hui, enfin pas partout, mais il y en a déjà 900, vous produisez de l'eau près des côtes, vous n'allez pas pouvoir la transporter à l'intérieur des terres. Donc c'est aussi qu'une réponse partielle. Mais en même temps, ça se développe vraiment avec... aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a plus de 12 000 unités de dessalement. On en met en chantier, je dirais pas quasiment tous les jours, mais ça se multiplie à une vitesse phénoménale. L'Australie, que j'évoquais tout à l'heure, bah, fonce dans le dessalement. Au rythme actuel, on enregistre à peu près un doublement, disons, de la production de bijons chantés, de nouvelles productions, tous les 10 ans. Mais ça s'accélère vraiment très très rapidement. Et ça pourrait encore doubler jusqu'à 2025. Et alors même en France, hein, on commence à l'évoquer pour Belle-Île, pour etc. Il y a une usine prévue à Londres également, en Belgique. Enfin, ça va extrêmement vite. Et c'est une... en Allemagne, aux Pays-Bas aussi, il y a quelques installations. Enfin, c'est... Bon, c'est donc... En résumé, c'est quelque chose qu'on a cru très longtemps exotique et tout. Maintenant, non, c'est vraiment pleinement d'actualité. Alors pour l'instant, jusqu'à présent, il y avait le problème du coût, parce que le coût de production du mètre cube, hein, c'était Encore il y a quelques années, c'était 1 $ le mètre cube. Là, on arrive à 0,60, 0,50. Donc là aussi, c'est des analyses coût-bénéfice. Est-ce que, voilà, confronté à telle situation, on pourra payer pour ça, etc., etc. Mais encore une fois, ce n'est qu'une solution partielle. Alors, quelque chose qui est proche, qui est moins connu, mais qui se développe aussi à une vitesse très impressionnante, c'est ce qu'on appelle le reuse en anglais, la réutilisation des eaux usées. Alors là, c'est une autre problématique, c'est quand on est confronté dans une région donnée à un problème d'épuisement de la ressource. Donc la ressource, j'aurais dû dire plutôt, là, ce qui est important aussi en matière de gestion de l'eau, c'est la notion d'usage et de conflit d'usage. Parce que sur un territoire donné, je disais tout à l'heure qu'à l'échelle mondiale, on utilise 70% des ressources en eau pour l'agriculture, vous avez toujours des conflits, des tensions. On parle souvent de guerre de l'eau. Il n'y a pas de guerre de l'eau, même le Moyen-Orient, on pourra en parler tout à l'heure, hein, j'ai une position assez précise sur ce sujet. Vous le dire tout de suite. Si on dit guerre de l'eau, on va dire, enfin pour moi, l'analyse, c'est qu'il y a un problème d'eau. Il y a deux États qui ont une forme régalienne, qui ont des armées, qui se déclarent la guerre. Non, au Moyen-Orient, l'eau fait partie du conflit entre Israël et l'État. Et les Palestiniens, et les territoires palestiniens, et peut-être le futur État palestinien. Mais ce n'est pas le facteur déclencheur du conflit. Et il y a des études tout à fait intéressantes qui ont été faites. Il y a une université aux États-Unis qui est spécialisée là-dedans, qui a analysé tous les conflits liés à l'eau depuis la Mésopotamie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a davantage d'accords de coopération que de conflits, de tensions. Pour vraiment trouver une vraie guerre, il faut remonter précisément à la Mésopotamie. Donc, en revanche, s'il n'y a pas de guerre entre États, même si ça génère des tensions, il y a toujours des tensions partout dans le monde entier, en France, près de chez vous aussi, entre les différents usages et les différents usagers de l'eau. Les vrais conflits pour l'eau, c'est les conflits entre l'agriculture, l'industrie, la consommation publique et de plus en plus le tourisme et les loisirs. Voir à Las Vegas, par exemple, où ils construisent des trucs absolument invraisemblables avec des jets d'eau. Enfin, là, ils en sont à Las Vegas à aller chercher avec un pipe de l'eau à 50 km qui va liquider 15 000 agriculteurs. Et là, donc c'est ça les véritables conflits pour l'eau. Et j'ai oublié d'ailleurs, très important, ça y est, l'eau pour l'énergie. Et là, en France, on a aussi une situation tout à fait particulière. Souvenez-vous, dans la canicule en 2003, Madame Bachelot avait dû autoriser EDF à, bien sûr, refroidir les centrales nucléaires, parce qu'on est aussi obligé. Ben voilà, pourquoi les centrales nucléaires sont toujours installées sur un fleuve, c'est qu'il faut des quantités d'eau phénoménales pour les refroidir. Si on ne les refroidit pas, on va au-devant de catastrophes. Donc, les conflits d'usage, c'est les arbitrages que porte l'autorité publique. En France, c'est les préfets et les sous-préfets. Dans une période de canicule, par exemple, comme ça s'est passé en 2003, ben, la puissance publique doit arbitrer. Quelle quantité d'eau j'affecte au refroidissement de la centrale? Donc là, on a dû accepter des rejets qui dépassait le seuil de 27 degrés autorisé pour aller un peu plus haut. Et là, vous entrez dans une zone sensible. Parce que si vous rejetez de l'eau trop chaude dans la rivière, bah, c'est les poissons qui disparaissent. Vous portez un préjudice très clair aux pêcheurs et à l'environnement et à tout ce qui nous appartient, à tous, à notre bien commun, si j'ose dire. Donc, vous affectez une certaine quantité aux centrales. Dans le même temps, si dans la même région, et c'est souvent le cas, vous avez un fort développement de l'irrigation, le maïs, etc., vous devez allouer un certain quota d'eau pour l'agriculture, parce que voilà, c'est prévu comme ça. Ce faisant, vous risquez d'amoindrir les ressources, et donc va se poser la question de l'alimentation, c'est le cas, Niort, les Deux-Sèvres, enfin toute la région Poitou-Charentes depuis des années, il y a presque des paris chez les professionnels de l'eau, est-ce que cette année à Niort, il n'y aura plus d'eau cet été, on va devoir donner de l'eau en bouteille. Bon, comme ça s'aggrave depuis des années, effectivement. Ça risque d'arriver. Et de plus en plus, de surcroît, l'utilisation de l'eau pour les loisirs. Les parcs aquatiques, etc., etc. Les golfs qui consomment. Moi, je me suis amusé à compter le nombre de golfs. Enfin, amusé. Entre Menton et Perpignan, j'en ai répertorié 120. Sur ces 120 golfs, chacun d'entre eux consomme à peu près l'équivalent de la consommation d'une ville de 5000 habitants. Il y en a 18% qui utilisent de l'eau potable. Donc, on peut se poser quand même la question de la pertinence de l'usage de ce type d'eau. Donc, pour vous dire que quand on parle de guerre de l'eau, de conflit de l'eau, c'est des conflits d'usage. Et toutes les autorités partout, depuis toujours, sont confrontées à ça. Et on le sera de plus en plus. Et c'est très difficile d'arbitrer. Parce que du coup, ça nécessite de se doter, ça demande énormément de temps, de lois, de réglementations, d'instruments. Et c'est ce qui fait défaut aussi majoritairement aujourd'hui aux pays du Sud. Nous, d'une certaine manière, on a pris de l'avance, parce qu'on a eu d'avance, voilà, un héritage de l'histoire. Moi, je ne me prononce pas là-dessus, surtout pas en termes moraux, mais enfin, bon, c'est un constat. Et on s'est donc doté de législation, de réglementation. Ça devient de plus en plus complexe. Et ce qui fait défaut aussi aux pays aux pays pauvres, on appelle ça aujourd'hui gouvernance, un terme que j'apprécie pas tellement, enfin bon. Mais de voilà, savoir comment gérer les conflits de l'eau, la gestion de l'eau, ça c'est extrêmement important. Il n'y a pas seulement que la disponibilité de la ressource, les moyens financiers, les réponses techniques, il y a aussi les technologies de gestion. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut transférer comme un transfert industriel, une usine clé en main, un Airbus qu'on voit à la Chine. Non, 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 non. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup. Il faut mobiliser les ingénieurs, les grandes écoles, les autorités publiques, la population, etc. Et c'est un des enjeux majeurs aussi pour l'accès à l'eau des pays du Sud. Donc, excusez-moi, j'ai fait cette petite insiste, j'aurais dû l'évoquer plus tôt. Le reuse, la réutilisation des eaux usées. Donc là, c'est dans une situation où vous avez trop d'eau utilisée pour l'agriculture, trop d'eau polluée, etc., etc. Donc, on a inventé l'assainissement des eaux usées, l'épuration, les stations d'épuration, etc., etc. Et maintenant, on est entré dans une logique selon laquelle, si on a un problème, donc trop de pression sur la ressource, on va ajouter une unité de traitement à tous les traitements d'assainissement classiques et on va réutiliser ces eaux usées pour des usages industriels, pour des usages agricoles et désormais pour la consommation humaine. Aujourd'hui à Singapour, à Windhoek, capitale de la Namibie, et depuis l'an dernier dans une ville australienne,